14h41 minutes de long en large. J'ai dit qu'il faisait beau, mais là, j'ai l'impression qu'il fait encore plus beau dans le studio parce que il y a quelque chose qui se passe. Attendez un peu. Je vais l'accueillir comme il se doit. Hein? Je vais faire ça, une petite blague. Voilà. Entrez. Restez pas dans le tambour. Allez.
Quand j'étais en Colombie, en visite chez des amis, je voulais acheter un cadeau pour donner à ma Marco. J'ai fait le tour des magasins, cherchant quelque chose en castor, mais comme je parlais canadien, partout on me sacrait dehors. C'est alors que j'ai compris que c'est Québec et mon pays.
Bonjour Laurent Turcot.
Bonjour, c'est magnifique. Quel accueil.
J'étais pas sûr de ma shot, parce que c'est pas évident. D'abord, on peut se tutoyer?
Bien sûr.
Parce que je tiens entre les mains l'histoire, nous le dira deux.
Oui, le tome 2.
Le tome 2.
Oui, oui.
Puis je pense qu'il y en a beaucoup qui avaient hâte que ça sorte
oui,
aussi.
Oui, mais on n'a pas besoin d'avoir lu le tome 1 pour tomber dans le tome 2. Non. C'est indépendant.
Mais je pensais que tu avais tout dit dans le 1.
Non, mais on ne dit jamais tout dans un livre parce qu'il y a toujours un reste. Ouais. C'est qu'à un moment donné, on commence à travailler des sujets parce que dans le tome 1, je m'étais posé la question « qu'est-ce qui fait que le Québec est le Québec? » J'étais passé par l'accent, j'étais passé par les fêtes, j'étais passé par la gastronomie, la poutine, le pâté chinois, même le sport, le hockey. Puis là, je m'étais dit « ouais, mais c'est pas juste ça, le Québec. » On peut pas le résumer à
t'avais
quelque chose.
T'avais oublié les bungalows.
Les bungalows, la banlieue, les autoroutes. J'avais oublié aussi quand même, tu sais, la grande histoire, celle qui va, même avant les Autochtones, la formation du continent jusqu'à la fameuse bataille des Plaines d'Abraham, parce que, bon, moi, je viens de la ville de Québec, puis même pire, je viens de Sainte-Foy, d'où la raison pour laquelle il y a une section sur la banlieue. Mais on m'a toujours dit, la bataille des Plaines d'Abraham, c'est très important, les effets que ça a eu. Mais à un moment donné, ma fille, qui avait 10 ans à l'époque, rentre de l'école, puis me dit, « Papa, aujourd'hui, on a travaillé sur la bataille des Plaines d'Abraham, puis ça a duré 8 minutes. » Puis je dis, ben non, Charlotte, ça n'a pas duré 8 minutes. Donc là, je lui ai tout expliqué, je lui ai fait la démonstration, la mise en scène. Elle dit, oui, d'accord, mais ils nous ont quand même dit que ça durait 8 minutes, donc je vais dire que ça durait 8 minutes. Je dis, bon, ben OK, je pense que là, il faut que je m'attelle à la tâche de manière plus sérieuse.
Ah, pas ouais, pour elle, Wolf est mort, mon calme est mort, c'est fini.
C'est fini de plus.
Merci beaucoup, bonsoir, terminé.
Exactement.
On ferme les portes là, on ferme les livres.
Oui, exactement. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ça serait intéressant de pas juste dire à quel point c'est important, mais de rappeler les faits. Puis tu sais, je me suis dit, je vais raconter ça un peu comme un film avec Wolf, Montcalm, les Français, les Autochtones, les autres qui se couchent, qui se relèvent, ça recommence, l'autre, il meurt, ça revient, ça repart, ils perdent, ils donnent les clés, ils sont pas contents. Tu sais, c'est un film, cette histoire-là. Puis des fois, on oublie à quel point notre histoire est passionnante. Puis c'est à travers ça, tu sais, c'est des petits chapitres qui se lisent assez bien. On n'a pas besoin de lire un livre d'une couverture à l'autre puis de se dire, mon Dieu, j'en ai pour 4 heures à lire ça.
Non.
Ça se lit facilement.
Ça se lit facilement, puis sans... Tu peux le laisser traîner, puis le laisser là pendant une semaine, puis y revenir. Puis tu parles de Montcalm et de la bataille des Plaines d'Abraham. En fait, tu as mis aussi deux images. Parce qu'il y a des gens qui, ça leur prend un repère visuel. Moi, ce que j'aime de toi, c'est que ton texte est un repère qui peut être visuel. Tu t'expliques tout en petits détails, tu sais. Mais des fois, tu mets aussi une image. Et dans ce cas-là, il y en a deux, celle de Montcalm et celle de Wolf.
Oui, la fameuse image.
La fameuse image qui n'est pas pareille.
Non,
tu vois bien qu'il y a une différence entre les deux.
On se souvient très bien de Wolf. Ben, en fait, ceux qui ont suivi leur cours d'histoire, on se souvient que Wolf est mort au Québec, en fait, à Québec, là. Et ce qui était assez drôle, qu'on ne connaissait pas pour l'anecdote, c'est qu'on a voulu ramener son corps à Londres pour le glorifier, puis on l'a mis dans un tonneau de rhum pour être sûr qu'il ne se décompose pas. Donc, le héros de la bataille des Plaines d'Abraham est revenu à Londres par un tonneau de rhum. Pour ce qui est de mon
cas... Il n'y avait pas de format.
Non, mais on faisait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Mais tu sais, des fois, on juge rapidement, mais des fois aussi, ça défait le mythe de ce côté-là. Puis c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là, vraiment.
Là, je sais pas où on va aller tous les deux l'après-midi. Il y a tellement de choses à dire.
On va aller dans l'histoire, en tout cas.
Oui, je veux. Bon. Ce livre-là, c'est pas... Tu dis au début, et je trouve important que tu nous expliques ça. Tu dis au début, l'histoire, c'est aussi la façon dont on l'exprime nous-mêmes. Ça passe par nous, ça passe par toi. Ta personne à toi qui l'écrit, c'est toi qui es au bout, c'est toi qui tiens le crayon.
Oui, parce que, tu sais, je pars toujours de l'idée que... On ne peut pas s'intéresser à l'histoire de manière naturelle comme ça, comme une génération spontanée. Tu sais, tu te réveilles un matin et tu dis « Oh, je vais travailler sur le gaélique au 15e siècle. » Ça ne vient pas comme ça. Ça vient d'une expérience personnelle qu'on a, d'un voyage, d'un conte qu'on nous a dit, ou encore de d'un livre, oui. d'un roman. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est à quel point cette fibre-là a résonné en nous puis a révélé cet intérêt. Puis moi, je me suis dit, l'intérêt que j'ai pour le Québec vient de quelque part. Tu sais, je te disais tout à l'heure, je suis né à Sainte-Foy. Puis moi, ce qui me marquait à Sainte-Foy, puis dans plusieurs des banlieues au Québec, c'est qu'il n'y a pas de trottoir. Il n'y a pas d'espace pour les piétons.
Ben oui!
Alors qu'en ville, puis tu sais, moi, mes enfants, on est à Montréal, quand on va chez, chez les grands-parents, donc mes parents, ils arrivent dans la rue puis ils disent « Papa, où est-ce qu'on marche? » Ben, je dis « Sur le côté de la rue. » « Oui, mais il n'y a pas de trottoir. » Ils sont comme déstabilisés, alors que pour les gens de la banlieue, ça va de soi. Tu sais, c'est un peu ça que j'ai voulu raconter. Donc, je me suis dit « Je vais partir de moi, de ce qui m'intéresse. » Puis à un autre moment, je raconte l'histoire de la fameuse ceinture fléchée.
Oui.
Puis la ceinture fléchée, bon, à Québec, nous autres, on avait le bonhomme carnaval.
Le fameux bonhomme.
Qui avait sa ceinture fléchée. Puis je raconte cette anecdote où est-ce que c'est des amis qui sont de passage, qui viennent de France, puis ils disent « Hey, d'où c'est que ça vient, là, la ceinture fléchée? » Puis comme Québécois, des fois, quand il y a quelque chose de très référentiel avec beaucoup d'histoire, on dit « Oh, ça doit venir des Autochtones. » Sans trop savoir l'histoire. Ben, en fait, c'est absolument l'inverse.
On leur a même beaucoup de choses sur le dos aux Autochtones, d'ailleurs.
Oui.
Mais, bon, mais c'est l'inverse continu, c'est intéressant.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est la ceinture fléchée, ça vient plutôt de France, ça a été créé au Québec, ici, et c'est les Autochtones qui s'en sont emparés, comme ont fait les Métis, Louis Riel, par exemple, avec sa Red Blood Satch, comme on retrouve dans les musées, bien, ils se sont appropriés ça, alors que c'est Canadien-Français, véritablement. Donc, c'est là que tu penses connaître l'histoire, puis tu dis « Oh! »
Il y a quelque chose,
finalement.
Puis le développement, tu sais, tu parles aussi du développement, tu sais, des routes, tu parles des banlieues, tu parles des bungalows, oui, parce que ça a été, c'est un phénomène quand même, là. Mais ces observations-là, c'est pas une évidence pour tout le monde. On sait, t'es docteur en histoire, ça va, là, tu peux, des références, tu dois en avoir plein de papiers et de livres de références. D'ailleurs, à la fin du bouquin, je pense qu'il y a presque l'équivalent de 2 chapitres de références. C'est magnifique. C'est une terre riche en informations, le Québec.
C'est très riche, puis d'autant plus que ça venait d'une espèce de complexe que j'avais dans la mesure où ma mère, elle, est de la famille française, elle est française elle-même, puis on allait souvent en France les étés. Puis tu sais, quand tu arrives en France, tu dis « Wow, ils ont une histoire riche.
Oui. »
Tu plonges dans les racines médiévales des châteaux forts, tu retournes même en Antiquité. Après ça, tu arrives avec Louis XIV, puis tu dis « Ah, ils ont une espèce d'élastique qui n'en finit plus de s'étendre en histoire. » Alors que tu reviens ici, ben, tu sais, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'étais au Salon du Livre en Abitibi, puis les gens venaient quasiment s'excuser en disant « Ben nous, on a une histoire très courte, tu sais, à peine 100 ans. » Mais on a commencé à me raconter des histoires là-bas, mais je dis « Mais c'est fascinant! » Puis tu sais, quand tu disais tout à l'heure « Quand est-ce qu'on arrête? Est-ce que tu as encore de la matière? » Les gens d'Abitibi m'ont raconté des choses. De la même manière, quand je suis venu aux Îles-de-la-Madeleine, parce que là, c'est la troisième fois que je viens, je suis débarqué ici, puis j'ai fait « Mais quelle est cette histoire? D'où ça vient? » Finalement, j'en ai tiré une vidéo sur ma chaîne YouTube sur l'histoire des Îles-de-la-Madeleine pour les touristes qui débarquaient ici puis qui se disaient « Un, comment ça se fait que c'est au Québec? » Deux, d'où vient la langue? Qui ont été ceux qui ont colonisé l'espace? Tu sais, ça finit plus cet intérêt-là. Puis tu sais, ça retombe à ce que tu disais tout à l'heure. Tu sais, c'est faut que ça parte de soi. Puis toute question qu'on a est bonne. Puis c'est l'idée de revenir, tu sais, comme ma fille qui disait la bataille des plaines d'Abraham, ça a duré 8 minutes.
Mais
revenir à cette curiosité d'enfant, pas dans le sens puéril en disant « Oh mon Dieu, t'es enfantin dans tes questions », c'est juste, t'as une vivacité dans le regard puis dans l'intérêt, puis toute question est bonne.
Puis d'avoir le référent, tu sais, tu te le crées, tu te le fais, tu dis « Ok, c'est ça ma brique que je dois me souvenir, que je vais garder dans tel tiroir plus élevé que celui qui est en dessous. » Puis tout à l'heure, je parlais du 250e anniversaire du parlementarisme québécois avec ce fameux Bill de Québec. Et quelqu'un disait là-dedans, les îles de la Madeleine n'auraient pas existé sans cet acte-là. C'est peut-être la seule belle chose qu'il y a eu dans cet acte de Québec.
Ah, mais c'est intéressant, parce qu'on peut en parler longtemps de l'acte de Québec, ça.
Mais tu sais, ça a permis aux îles de faire partie du Québec.
Ben oui, c'est vrai. Mais ça a été tellement important, 1774. T'sais, on résume rapidement les gens. Là. La bataille des plaines d'Abraham, 1759. On perd la bataille, on gagne quand même la bataille de Sainte-Foy en l'année suivante. Mais là, le traité de Paris est signé en 1763. Mais ce qu'on oublie, en 1763, à la table de négociation, la France, la Grande-Bretagne est là. Et là, la Grande-Bretagne va dire à la France, écoutez, la France, là, on vous donne un choix. Soit vous gardez le Canada, avec les îles de la Madeleine et tout ce que ça implique, soit vous gardez la Guadeloupe, Haïti, tout ça, donc les îles sucrières. Qu'est-ce que va choisir la France entre l'hiver et le sucre?
Ben le sucre?
Ils vont choisir le sucre. Mais le problème qu'ont les Britanniques, c'est que là, ils ont tout le continent nord-américain. Et il y a 13 colonies qui pousse pour avoir plus d'autonomie. Et pour être sûr que le Québec ne rejoigne pas ses 13 colonies, ils vont dire en 1774, OK, les francophones, on vous permet de vivre en français, on vous permet d'être catholique. Et ça, en 500 ans d'histoire, ils ne l'ont jamais donné aux Irlandais. Donc, c'est inespéré, cet élément-là. Et ça, on l'oublie parfois quand on parle du début. Puis l'article dans Le Devoir de Dave Noël est excessivement intéressant. J'invite les gens à aller le lire. Mais c'est vrai que ce moment-là est un moment pivot dans l'histoire du Québec.
Même si on ne le retient pas vraiment.
T'sais, mais il s'en passe tellement des affaires, parce que, on a 1774, après arrive l'acte de constitutionnel en 1791, arrive après ça les rébellions des patriotes, arrive Lord Durham qui a dit qu'on n'avait pas d'histoire et pas de littérature, bref, une autre belle page de notre histoire. Mais tu sais, juste raconter cette histoire-là, je trouve qu'il y a une espèce d'élan, une épopée qu'il faut ramener dans notre histoire. Tu sais, l'histoire, c'est pas une série de dates, là, je viens de faire exactement l'inverse parce que je viens de t'en enchaîner cinq, mais je trouve qu'il y a une envolée à aller chercher. Puis moi, les grands profs d'histoire qui m'ont marqué, tu sais, ils rentraient dans le cours, puis le show était parti.
Et c'est toute la différence. Il y a des gens qui vont adorer l'histoire parce que, justement, on a su leur enseigner de belle façon.
Ouais.
Et puis, il y en a d'autres qui vont « Ah non, c'était plate, je l'aimais pas, lui, tu sais, ou elle. »
Mais tu sais, c'est pour ça que j'ai fondé un peu ma chaîne YouTube, parce que tu te dis, tu veux parler au plus grand nombre. Puis comment tu fais aujourd'hui pour aller sur des plateformes où est-ce que tout le monde peut y avoir accès? Bien, je me suis dit, je vais passer par là. Pour faire, mais tu sais, même, il y a certaines vidéos, je me suis dit, c'est trop long, mais ça marche quand même. J'ai fait une vidéo de 7 heures sur la Seconde Guerre mondiale.
Alors, tu vas me comprendre si tout de suite, je te dis, là, on est très long, là.
Ben oui!
Ça fait 12 minutes qu'on parle, mais je te garde.
Ah ouais?
Oui, parce que, je veux qu'on parle de ceci.
Oui!
Je fais du
J'écoute cette chanson depuis un an.
C'est sans blague.
Robin Joël Cool, faut quand même le nommer là.
Ah, il est
grandiose ce qu'il fait Stéphane dans Tant de chiens.
Tant de chiens, absolument... blonde et dans Tant
oui,
de chiens. C'est,
exactement.
Quel effet ça fait d'avoir une blonde qui est la femme d'Antoine Meilleur?
D'un vétérinaire aux îles de la Madeleine. Je le prends bien. Je salue François Bellefeuille, pardon. Écoute, j'ai adoré cette série-là, vraiment. Je ne sais pas comment ça a été reçu aux îles, mais moi, ça a fait vibrer l'espèce de sensation que j'avais en venant ici. Parce que quand, écoute, on a la piqûre quand on vient aux îles malgré nous.
Oui.
Là. Puis cette chanson-là, celle de Robin, là, je la trouve tellement bonne. Puis, en fait, j'ai même eu la chance avec Robin, on est allé enregistrer Henri Paul qui nous a dit, en fait, qui raconte dans la chanson comment cuire le homard. J'étais là quand il l'a enregistré. C'était une expérience magnifique d'être avec les deux. Puis Robin, là, vous allez le croiser de toute façon parce qu'il est sur l'île en ce moment.
Oui.
C'est un personnage.
Ah, je...
Mais pas autant qu'Émilie, par exemple. Émilie, elle est parfaite. Elle a toutes les qualités du monde, vraiment. Mais c'est une équipe magnifique, Tant de chiens. Oui. Puis ils sont vraiment respectueux, gentils, ouverts.
Ben, au début, ils travaillent bien. Au début, je t'avouerai. Mais il y a peut-être des gens qui se sont dit, non, attends un peu, ils sont en train de se moquer de nous autres?
Ah, absolument pas.
Et je connais très bien François pour te dire, et je le savais, certainement pas. François est d'un respect incroyable. Il adore les îles. Jamais, jamais ça lui viendrait. Mais c'est un humoriste. Et il écrit une série pour qu'elle soit écoutée. Et il réussit à faire aimer les gens des îles à travers ça.
Oui, vraiment.
Mais je veux que tu parles du homard. Parce que le homard, pour toi aussi, il nous reste 3 minutes. Le homard, tu veux faire quelque chose sur le homard? Ça,
ben
ça
oui.
parle, ça,
ben
le,
oui, parce
l'histoire
que là,
du homard.
Je suis venu, en ce moment, c'est la troisième fois, je vais sans doute revenir encore, là, sur l'histoire du homard. C'est sur la chaîne YouTube. On est en train de préparer une série sur pourquoi est-ce qu'on mange du homard. Tu sais, on dit souvent qu'avant, c'était une nourriture de pauvres, qu'on lançait ça, qu'on en faisait de l'engrais. C'est vrai, mais il y a des mythes aussi. Le mythe selon lequel on donnait ça à des prisonniers puis qui voulaient rien savoir, ça, c'est un mythe complet. On va détruire ces mythes-là. Puis là, on parle de Robin. C'est que j'ai enregistré le Robin. Il y a des gens qui nous ont vus, de toute façon, sur la grave avec sa guitare en train de chanter « Je veux du homard », qui nous explique comment dépecer un homard. Donc, je suis allé aussi voir, faire de la pêche au homard avec Maxime, qui était dans la course folle. Bien honnêtement, je me suis rendu compte que j'étais très urbain à ce moment-là. Le pied et la tête tournaient énormément. Mais faut le faire dans sa vie. C'est magnifique. Quelle expérience.
Juste un mot, tu sais, les gens qui font le homard grillé. Attention, quand vous le découpez, vous coupez le, ce qu'on appelle le fiel.
Oui.
Faites pas ça. Faites pas ça. Hein? Ceci dit, aux îles encore pour un petit bout?
Oui, encore quelques jours pour faire quelques tournages. Puis quelque chose qui s'en vient sur l'histoire de la grave aussi.
Oui. Puis à soir, tu te promènes un petit peu. Je sais que tu vas passer par Flotille. Je sais aussi que ton livre est disponible chez les meilleurs libraires.
Oui, oui, notamment chez Flotille.
Non, mais tu sais,
faut le nommer.
Quand on a, faut la nommer. Faut les nommer. L'histoire nous le dira. Je veux qu'on termine là-dessus parce que, écoute, je suis là-dedans. Là, j'ai fait une lecture rapide. Tu sais comment est-ce qu'on est quand on a un pareil bouquin. Et je vais le décortiquer, je vais le dévorer.
Tant mieux!
J'en ai pour... Non, mais c'est...
Puis même, j'en ai apporté un cadeau pour
bon,
ceux...
Oh, wow!
Pour ceux et celles qui voudraient... Oui, je vous en laisse un, donc vous pouvez le faire tirer.
On va faire ça tirer d'ici la fin de la semaine. C'est « L'histoire nous le dira 2 » de Laurent Turcot. Et c'est aux éditions Urtubise. Écoutez, si vous voulez... Vous allez... À chaque page, vous apprenez quelque chose. Fait que c'est mieux qu'un professeur d'histoire. Puis si jamais cette journée-là, il ne vous tente pas, c'est pas grave. Vous pouvez prendre une journée sabbatique.
Ou un autre
faire
chapitre.
L'école buissonnière, puis sauter une page.
Exactement.
Laurent Turcot, ça a été un immense plaisir aujourd'hui. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir
merci,
pour
Pierre.
L'histoire nous le dira 3.
Sûrement.
Bye-bye.
Merci.
Je vis dans un pays qu'on dit tranquille. Y'a ni volcan, ni tsunami, des gens dociles. L'hiver, quand c'est l'enfer, y'a la Floride. L'été, la Gaspésie, les Laurentides. C'est un pays parfois qui voudrait l'être et qui souvent se voit mourir et puis renaître. C'est un presque pays.